Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission d'Audio Sapiens où les chercheurs et chercheuses nous dévoilent les coulisses de la recherche. Je suis Théo Mathurin, rédacteur scientifique à Embelli Science et je suis accompagné par mon collègue Nicolas Brasier. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, aujourd'hui, deux doctorants viennent nous parler de leur recherche et donc nous rejoignent aujourd'hui Julie Désert et Pedro Poli. Merci d'être avec nous.
Merci, bonjour.
Merci.
Donc Julie, tu es doctorante en anthropologie au laboratoire Habite le Monde à l'université Picardie-Jules Verne.
Tout à fait.
C'est ça. Et Pedro Poli, tu es doctorant en écologie au laboratoire Edison. On dit Edison ou Edison, j'ai jamais
Edison.
Dit. Plutôt Edison, ok. Plutôt, aujourd'hui, oui. On dira Edison. Donc.
Ok.
À l'UPJV également.
Exact.
Donc, vous nous parlerez un petit peu de vos travaux de recherche et de ce que c'est d'être doctorant donc, dans votre cas. Alors, on va peut-être commencer avec toi, Julie. Alors, tu es doctorante, on a dit, au laboratoire Habiter le Monde et tu travailles sur la gestion des déchets plastiques au niveau des plages de Biarritz, c'est
Absolument.
Ça ?
Donc effectivement, en quelques mots, je travaille donc sur les déchets sauvages, donc pas seulement les déchets plastiques, mais plutôt sauvages au sens large. Donc ce sont les déchets qui sont présents sur les bords des littoraux, qui sont présents en forêt, sur les rivières, sur les berges, etc. Pour ce qui me concerne, vu que je travaille, comme tu l'as dit, donc sur Biarritz et sur la côte basque, je travaille davantage sur les déchets marins, les déchets aquatiques, voilà. En posant toute cette question de comment la ville de Biarritz fabrique son paysage, comment elle le construit, elle le façonne.
D'accord, donc en fait, tu travailles, donc le labo où tu es, il est donc à l'UPJV, donc par
oui,
ici.
Tout à fait.
Mais par contre, ton travail, tu es localisé du coup à Biarritz.
Absolument, je suis sur le terrain.
D'accord, donc tu te déplaces.
J'ai fait le choix de vivre sur le terrain. Voilà, c'est le propre de l'anthropologie aussi,
oui.
D'être sur le terrain. Mais oui, effectivement, c'est le cas.
D'accord. Et donc ça va cette double localité
Je te cache pas que c'est difficile. Ouais, oui, bah, j'ai un peu une vie de nomade, hein, ce dont on parlait aussi tout à l'heure. Mais oui, absolument.
Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes, en fait, en quoi consistent tes recherches, donc au sujet voilà, des déchets sauvages te concernant au niveau du littoral et des plages. Donc, tu disais que ce n'est pas seulement les déchets plastiques, donc c'est tous les déchets sauvages qu'on va retrouver donc, sur les plages, c'est ça, et même en mer.
Exactement. Donc, en fait, pour la gestion des déchets sauvages à Biarritz, il y a trois formes de nettoyage, donc trois actes de nettoyage, le nettoyage manuel, donc voilà, à l'aide de pinces par les agents techniques de la ville. Le nettoyage mécanique, donc à l'aide de cribleuses. Vous imaginez voilà, ces gros engins, ces tracteurs sur les plages, hein, voilà, qui balayent l'ensemble de déchets que l'on peut retrouver. Ainsi que le nettoyage maritime. Donc le nettoyage maritime s'inscrit dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle LifeLema. Donc c'est vraiment aussi propre à la côte basque, hein, pour le coup. Voilà, donc maritime le long des 300 mètres de la côte et au-delà.
D'accord. Voilà. Ouais, donc tu disais que c'était dans le cadre d'un projet européen, ce nettoyage, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui gère...
C'est un grand projet, et disons que ça a été inscrit dans ce cadre où la ville de Biarritz s'est positionnée en tant que partenaire, etc.
D'accord, donc c'est spécifique vraiment à cette zone-là. D'accord.
C'est une chance.
Et donc au niveau de ces trois modes de gestion des déchets, est-ce que, donc tu as mentionné le manuel, le mécanique, puis le maritime, est-ce que les uns les autres n'ont pas, j'imagine, les mêmes impacts sur le paysage, sur les écosystèmes?
Effectivement, c'est certain, notamment le nettoyage mécanique, du coup à l'aide de cribleuses, donc comme je disais, qui balaye l'ensemble des déchets récoltés. On ramasse donc là des déchets d'origine anthropique, donc humaine, hein, et effectivement principalement le plastique, comme vous le savez, et des déchets d'origine organique, quoi, tout simplement. Donc le bois flotté, ce genre de choses, les algues, voilà, on enlève tout. On enlève cette laisse de mer, le dépôt, hein, qui est donc fait par la mer, tout simplement, et qui, donc, normalement, participerait à l'équilibre naturel du milieu marin. Et là, ce n'est pas le cas. Donc oui, effectivement, les impacts sont assez importants.
La laisse de mer que tu as mentionnée, oui. c'est la ligne de déchets organiques qu'on voit sur la plage, au niveau de la ligne où arrivent les vagues.
Exactement, ouais.
Okay.
Alors à Biarritz, vous le verrez quasiment pas, puisque
se retirer.
Voilà. Mais bon, c'est pas le propre de Biarritz, hein, c'est le propre des villes littorales touristiques de façon générale.
D'accord. Donc en fait, par défaut, généralement, les grandes municipalités qui sont assez touristiques décide de retirer cette laisse de mer.
Complètement. Mais ça semblerait impensable d'un point de vue d'enjeu, d'enjeu économique, enjeu touristique, etc., de penser et de voir la ville de Biarritz avec des déchets, etc. Enfin, c'est, de fait, on veut de voir Biarritz une plage de sable blanc et voilà, et ses rochers, ses vagues, et tout va bien, quoi.
Donc, en fait, on fantasme un peu l'espace naturel, dans le sens où, sans l'influence humaine, il y aurait cette laisse de mer, et donc ce qui est considéré aujourd'hui comme un déchet par les personnes qui gèrent les plages.
Exactement, il y a une perception vraiment du déchet qui est différente selon les acteurs, selon les habitants aussi, qui certains espèrent revoir un jour cette laisse de mer, voilà, qui a donc complètement disparu. Donc une perception différente du déchet, une perception différente du paysage qui n'est plus si naturel que ça, car complètement fabriqué et pensé par l'homme.
Oui, donc même s'il n'y a pas d'habitation, de bâtiments ou d'usines, un littoral, il est quand même totalement anthropisé dans tous les cas.
Tends à le penser, oui, malheureusement.
D'accord, donc c'est un peu ça, sur ces questions-là que tu réfléchis.
Exactement.
Et est-ce que, du coup, tu peux nous parler un petit peu de tes méthodes de travail? Comment est-ce que peut s'organiser une journée pour toi? Je ne sais pas s'il y a des journées types, peut-être pas. On a eu plusieurs personnes qui sont venues dans cette émission nous dire « Excusez-moi, je n'ai pas de journée type parce que tous les jours sont différents. »
Absolument.
Donc ça, voilà, on peut le comprendre. Mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, vraiment concrètement, en quoi consiste ton travail?
Ok, du coup, effectivement, donc je suis en anthropologie. Le propre de l'anthropologie, pour le coup, c'est une étude qualitative. C'est vraiment ma méthodologie principale. Donc ça se base sur des entretiens, des interviews, des entretiens voilà, assez exploratoires, des observations participantes. Je participe lors de collectes de déchets sauvages avec les associations locales, nationales et européennes. Les tri des déchets, etc. Et j'utilise la photographie sur le terrain. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie visuelle. L'anthropologie visuelle, c'est vraiment réfléchir par et grâce à l'image. Voilà.
D'accord, donc tu prends des photos de...
Toujours.
Ok, donc des plages, des déchets. Donc peut-être au contraire des photos qu'il y aurait sur les cartes postales, tu vas t'attacher finalement à peut-être mettre en valeur des choses que d'habitude on veut cacher.
Effectivement, normalement, le déchet est communément hors cadre, hors de notre focale. Et je tends à le mettre au premier plan, même pour le coup. C'est là mon objectif. J'arrive avant le nettoyage mécanique. Donc, je vais prendre des photos avant 5h du matin. C'est physique
aussi,
des fois.
D'accord. C'est ça que tu appelles être sur le terrain.
Voilà, oui, je suis sur le terrain physiquement.
Okay. Ouais. Se lever assez tôt pour arriver avant le nettoyage mécanique.
Tu vas inclure tes photos dans ta thèse, comment ça
oui,
se passe
oui, oui. Ouais. Oui, ça a déjà été le cas pour mes recherches précédentes, mais oui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une source de réflexion. C'est au-delà de l'illustration, de l'aspect mémoriel. C'est vraiment une réflexion à part entière. Quoi.
Et derrière, il peut y avoir une valorisation artistique, faire une exposition.
Je l'espère. Je l'ai déjà fait en 2015 et ouais, effectivement, j'aimerais beaucoup.
Ah, C'est vraiment sympathique parce que les liens à Res Sciences, nous, à Embellis Sciences, on y réfléchit, on y pense, on participe dans des initiatives qui s'inscrivent dans ce partenariat à Res Sciences. C'est pas courant que on ait des doctorants qui soient vraiment à ce point intéressés par cette interaction-là.
C'est vrai. Pour moi, c'est hyper intéressant justement d'avoir cet apport. C'est-à-dire que c'est une façon de vulgariser sa recherche assez facilement aussi. Tout le monde peut avoir une lecture qui est complètement différente des photographies. Et après, moi, double apport, c'est que c'est vraiment une science pour moi. Enfin, c'est ma façon de réfléchir et de penser le paysage. Ouais.
Je peux poser une petite question.
Okay, oui.
parce qu'en vrai, moi, je suis curieux sur qu'est-ce que c'est. Ils vont où les déchets après? Il y a un tri pour. Je sais pas pour les.
Alors, les déchets, après, voilà, il y a des normes qui font que ce n'est pas possible de les recycler. Donc, ils sont tous partis en centre d'enfouissement ou incinération.
Voilà. Ah, ok.
Effectivement, les déchets sont anthropologiquement, on pourrait qualifier les déchets, c'est ce qui troublerait l'ordre de l'espace. Donc voilà, clairement, ça trouble l'ordre des plages carottes. Voilà, exactement. Et du coup, on les enlève et finalement, on ne fait que les mettre en dehors de la ville, mais ils sont finalement dans un espace anciennement naturel. Ouais. Voilà, mais devenu centre d'enfouissement.
Ça, c'est tout un schéma qu'on a intériorisé. Le déchet, c'est quelque chose qui disparaît de notre vue. Ce qui part au robinet, ce qui part à la chasse, ce qui part dans les poubelles. quand ça part de chez nous, finalement, ça n'existe plus. C'est Or, ça. La matière ne va pas disparaître comme ça. Bon, ça ou alors, elle se transforme en énergie. E égale MC2, ça ferait quand même des dégâts assez importants. Non, bon, bref, ça, c'est... Donc, il faut en faire quelque chose. Et en pratique, voilà, ça se termine. Enfin, ou bien, dans le meilleur des cas, on peut les recycler. Donc, c'est fonction des matériaux, fonction de leur dégradation, etc., pour les exigences qu'il y a sur les produits recyclés. Ensuite, on peut les incinérer avec ou non récupération de l'énergie. Ou alors, le pire, c'est l'enfouissement. Donc, historiquement, c'est ce qu'on a fait le plus. Et, donc là, il y a des normes qui évoluent avec des restrictions de plus en plus importantes sur l'enfouissement. Et donc, au niveau, de la, au niveau de, du plastique en particulier, dont on parle beaucoup, il y a eu récemment des évolutions réglementaires. Donc on a entendu parler de l'Europe là, qui, souhaitait, enfin, qui a décidé l'interdiction de certains plastiques à usage unique. Est-ce que du coup, toi, ça, ça s'intègre dans, dans ton travail, dans, dans tes perspectives sur la gestion
des... Oui, complètement. Je suis obligée de toute façon de prendre en compte cette, ce contexte juridique actuel. Et donc pour être dans, dans la, un petit peu dans la polémique des choses depuis ces derniers jours, effectivement, donc l'évolution de la réglementation est en cours depuis des années. Donc ça devait être interdit au 1er janvier 2020. Donc c'est encore, voilà, c'est acté en tout cas pour les gobelets et pour un deuxième type de déchets à usage unique, je ne sais plus.
Pas les cotons-tiges.
Non, je crois que c'est les assiettes jetables.
Les couverts, non, ouais. Juste les assiettes.
Et justement, les, juste les assiettes jetables, d'accord. Je crois que c'est ça. Donc, d'accord. À vérifier quand même. Mais en tout cas, le Sénat a, suite à une demande d'amendement d'un sénateur du Parti En Marche il y a deux jours, a voté donc le recul d'un an encore cette, pour l'ensemble, voilà, pour l'ensemble des autres déchets à usage unique. Donc, les pailles, les couverts, les, voilà, les cotons-tiges, effectivement. Voilà, donc on ne fait que reculer, c'est la politique des petits pas, mais ça, je pense qu'on en a aussi l'habitude.
Oui, 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 effectivement. Après, c'est vrai que la, la perception même des citoyens évolue, mais peut-être l'évolue lentement. Moi, je me souviens quand... bon, je suis pas vieux, je me souviens quand j'étais plus jeune, bon, quand j'avais un chewing-gum, il fallait jeter le papier à la poubelle, mais je me souviens très bien que le fait de jeter par terre, c'était pas bien, mais c'était pas aussi inadmissible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui, moi ça m'est arrivé il y a quelques jours, jette un papier par terre, on se demande sur quelle planète on est, quoi. Donc bon, il y a une évolution.
Une prise de conscience aussi, voilà, qui est quand même assez réelle, oui, effectivement.
Donc ça, c'est bon. Après, ça se reflète sur l'évolution des réglementations du politique, même si voilà, le rythme n'est pas peut-être aussi rapide que qu'on le souhaiterait.
C'est sûr. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y ait, en fait, finalement, pour simplifier les choses, il y a un petit peu trois sortes de responsabilités. Il y a la responsabilité citoyenne, donc ça, on n'hésite pas à chaque fois à pointer du doigt le citoyen en disant le mauvais consommateur, il trimballe ses déchets, il jette ses déchets par terre. Donc effectivement, c'est ce qu'on entend assez, voilà, de façon assez courante. Et pourtant, je pense qu'il va falloir agir différemment et assez urgemment dès à présent, c'est-à-dire qu'il y a responsabilité effectivement du politique, qui a son rôle à jouer, et voilà, ces lois, il faut les passer et rapidement. Et ensuite, la responsabilité des industriels, qui, contrairement à ce qu'on pense, ben, voilà, on ne les accuse qu'assez peu, quoi.
Oui. Alors, en se disant qu'il y a des choses, il y a des alternatives de comportement qui ne sont possibles que si il y a l'organisation qui va avec.
Des trois, ouais.
Voilà, les réglementations, les, bah, du coup, les produits alternatifs proposés par justement les industriels qui changeraient leurs pratiques, etc. Donc effectivement, exactement. Il y a cet aspect, voilà, citoyen, individuel, la responsabilité de chacun, mais aussi il faut remettre dans le contexte de ce qui est faisable, possible et aussi économiquement intéressant pour les citoyens, si ça, ça coûte moins cher de jeter que de réutiliser, etc., par exemple, ou de recycler, c'est, et même pour les industriels, c'est vrai que ça pose question, effectivement. Très bien, merci Julie pour ton témoignage. On va passer à un petit interlude musical d'un morceau qui a un lien peut-être assez ténu avec ton sujet de recherche. À tout à l'heure.
Yo, pretty packages of frosted delights.
Look, it comes with a toy. I like that. I want a number four, number six, and throw in a plastic donut.
Just enjoy the gritty crunch. It tastes just like chicken. Wrappers of many bite sizes.
Man, are you freaking blind? It's a rock.
All mixed in the pot full. Mama's homemade from scratch. Well, not quite. Toasted over flames, they be tasting quite right. All hell.
Hell King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set. Ready, go. Many know others.
What?
We be the colors of the mad and the wicked. We be bad. We be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots.
Oh, that's chicken.
Gotta have it super fast.
A whole line of breakfast you got time for.
Super fast. Super fast, I come in last. But just in time for breakfast. Keep it true, keep it true. Forever blue. The night throws at us. Luminum, a crucial fun. Aluminum. The sea is radioactive. The sea is radioactive.
All hail King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set, ready, go. Many know others.
What?
We be the colors of the mad and the wicked. We be bad, we be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots.
Oh, that's chicken.
Gotta have it super fast.
Super fast, super fast. I come in last. But just in time for breakfast. Keep it true, keep it true. Forever blue.
Nous sommes de retour sur Radio Campus Amiens et Radio Graphite. On vient de vous passer Superfast Jellyfish de Gorillaz, donc sur l'album Plastic Beach, d'où le lien, comme je le disais, avec ton sujet de recherche, Julie. Et pendant la pause, il y a une petite question qui m'est venue à l'esprit avant de passer donc à toi, Pedro. Donc les entretiens que tu mènes donc dans le cadre de tes études qualitatives sont avec quel type d'acteurs?
Très bonne question, effectivement. Donc, j'interview vraiment l'ensemble des acteurs en présence sur le littoral biarrot, que ce soit les collectivités territoriales, les élus, les associations locales, nationales, européennes. Voilà, j'ai la chance aussi d'avoir Surfrider Fondation Europe, où le siège social se trouve à Biarritz, et les habitants, les surfeurs aussi, qui sont une population intéressante pour mon étude. Voilà.
D'accord. Donc, en fait, l'ensemble. C'est toute une diversité d'acteurs, et c'est le propre, en fait, de ta méthodologie de... Bah, un peu de prendre la température sur plusieurs publics.
Exactement. Et c'est aussi l'objet de recherche, on va dire, l'objet de Déchets Sauvages qui me le permet. Ça me permet vraiment de traverser l'ensemble de l'organisation sociale et environnementale de la ville et d'une façon beaucoup plus globale également.
D'accord. Merci, Julie.
Avec plaisir.
On va donc passer à cette seconde partie d'émission Audio Sapiens avec toi, Pedro Poli. Bonjour.
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 Oui, bonjour. Oui.
Donc, tu travailles, on le disait au départ, en écologie au laboratoire Edison.
C'est ça.
À l'UPJV. Et tes travaux concernent... Vas-y, dis-nous plus exactement ce que ça concerne.
En vrai, dans l'écologie en général, l'écologie, c'est l'étude de la relation des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Alors, c'est un vaste champ de recherche. Et moi, je suis particulièrement intéressé dans l'écologie évolutive. Je cherche à comprendre comment la diversité au sein d'une espèce peut aider l'espèce à s'adapter au changement climatique.
D'accord.
Pour résumer la thèse, c'est
okay.
Un peu ça.
Ok, bah ça va, comme on te demandait dans un premier temps d'expliquer en quelques mots, c'est parfait. Mmh. Alors, on va quand même te poser quelques questions pour avoir des précisions.
Ouais, avec plaisir.
Tu parles d'espèces. En pratique, quelles sont les espèces qui t'intéressent et pourquoi?
Ma question, c'est une question, en vrai, c'est une question un peu théorique, on peut dire. Je suis plus intéressé dans le processus derrière qu'à une espèce en particulier. Bien sûr, dans une étude biologique, on a besoin d'un modèle biologique, alors une espèce pour amener nos études. Je porte mon espèce modèle, c'est la tique, Ixodes ricinus. Elle est le vecteur principal de la maladie de Lyme, vu l'intérêt d'étudier cette espèce. Et aussi, j'étudie deux espèces de plantes, qui sont des espèces de plantes forestières. C'est la benoîte commune et la oxalis, cette osée-là. Ce sont deux espèces de plantes qui sont dans le même habitat adélatique. L'intérêt d'étudier ces plantes, c'est pour étudier aussi comment ça évolue l'habitat adélatique.
D'accord, donc peut-être que ça peut conditionner également la dispersion.
Ça va plutôt aider à comprendre quels sont les besoins de la tique. On va mieux comprendre quelle est où on va trouver la tique. C'est un peu ça. Le but final, c'est de mieux comprendre comment la tique elle va répondre à ces changements climatiques. Et les faits qu'on étudie aussi son habitat nous aident à comprendre comment ça va se passer cette réponse.
D'accord, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont déterminer donc la dispersion de la tique. C'est en Europe que tu t'intéresses?
Oui, je travaille à l'échelle européenne. Et sans doute, il y a plusieurs facteurs qui jouent sur la dispersion de la tique. D'abord, la fragmentation du paysage. Mais moi, dans le cadre de ma recherche, bon, on ne peut pas étudier
Il y a d'autres chercheurs qui s'intéressent.
C'est ça, il y a d'autres chercheurs qui amènent des recherches plus lié au paysage, vraiment à la fragmentation. Moi, je suis intéressé sur le côté climatique. Ça veut dire comment la tique, elle va répondre au réchauffement climatique. C'est réel.
Oui, bien sûr.
Voilà, on se pose plus ce genre de questions. Ma question, c'est comment ces réchauffements climatiques, il va jouer sur la zone de la zone où on trouve la tique.
D'accord, donc au niveau de l'évolution des températures, de l'évolution du climat, donc ça concerne aussi les précipitations,
etc. Sans doute le réchauffement climatique, il joue indirectement dans d'autres variables environnementales, y compris la précipitation. On suppose, on part de l'hypothèse, c'est une hypothèse pour l'instant, qu'avec le réchauffement climatique, la zone de vie de la tique va augmenter. Ça veut dire dans certaines régions où aujourd'hui on ne trouve pas la tique ou on trouve très peu, elle sera plus présente dans le futur.
D'accord. Est-ce qu'on a déjà des signes de ça? Parce que bon, le réchauffement climatique est déjà en cours, on est déjà à plus 1 degré par rapport aux températures pré-industrielles. Donc est-ce que, moi je ne sais pas si les relevés existaient il y a longtemps, mais est-ce qu'on sait que voilà, les tiques sont soit plus nombreuses ou...
Il y a deux questions là. Il y a deux questions là. En vrai, oui, on a déjà d'informations sur que la tique, elles sont plus présentes dans des régions où avant elles étaient moins remarquées. Mais après aussi, récemment, on fait beaucoup plus d'études sur la tique. Alors, bien sûr qu'elle est plus présente dans certaines zones, mais c'est aussi parce que nous, on cherche
plus.
On cherche plus.
Donc, il y a un biais quelque part dans les données.
Il y en a. C'est difficile de se débarrasser de ces biais.
D'accord. Ouais.
J'ai une question, oui. Théo. En fait, Pedro, à quoi elle ressemble la tique, si tu arrives à la décrire à la radio?
Peux-tu la dessiner
devant nous? Est-ce qu'on la trouve en Haute-France, la tique?
Oui, on la trouve en Haute-France, la tique, en vrai, oui. On la trouve un petit peu partout dans notre région. C'est en Picardie, sans doute. Si on va dans une forêt, il y a une chance de tomber sur une tique. Pour la tique, que la tique tombe sur nous.
Plutôt, oui.
Mais oui, la tique, bon, pour décrire une tique comme ça, c'est un peu compliqué. Bon, c'est un acarien. Oui. Je ne sais pas trop comment décrire de manière orale.
C'est plus proche des araignées que des insectes.
C'est plus proche des araignées, oui. En termes évolutifs, c'est plus proche d'une araignée, oui, il y a 8 pattes. Bon, la tique, c'est assez visible quand il y a une tique. Quand il y a une tique qui tombe sur nous, on le voit assez facilement.
Mais on ne le sent pas forcément.
On ne le sent pas forcément. Mon conseil, en vrai, c'est juste quand on se balade dans des régions où il y a plus de chances de trouver des tiques, surtout dans le milieu naturel, c'est de bien s'habiller et, si possible, aussi utiliser des répulsifs à la tique. Et après, en rentrant chez nous, regarder notre corps, surtout le corps des enfants.
Oui. Bien inspecter
s'il y a des tiques.
Et à retirer au tire-tique.
Ah oui, ça c'est très important, à retirer au tire-tique.
Sans alcool.
Jamais mettre des cotons avec de l'alcool, comme il y a des gens qui disent. Non, ça ne se fait pas parce que ça stresse la tique. La tique va produire plus de salive. Et si jamais la tique est contaminée par la bactérie responsable pour la maladie du Lyme, il y aura plus de chances que nous, on soit contaminés aussi. Alors oui, sans doute, tire-tique.
Oui, tirtique et tirtique rapidement, parce que c'est en fin de repas, si j'ai bien compris, qu'elle va potentiellement...
Il y a,
plus de chances de transmettre la bactérie. Très bien, donc on va peut-être revenir sur ton sujet de recherche, parce que bon, la maladie de Lyme, c'est extrêmement intéressant, on pourrait en parler pendant des heures, mais...
C'est donc... pas tout à fait mon sujet, voilà. La maladie de Lyme, même si j'étudie les vecteurs. Même.
Oui. Oui, donc la tique est ce qu'on appelle le vecteur de la maladie.
C'est ça.
Donc tu parlais tout à l'heure de la question de comment la diversité au sein d'une espèce, intraspécifique, va influencer la capacité à s'adapter au changement climatique.
Et c'est aussi notre hypothèse, c'est aussi que certaines lignées d'une espèce, elles sont plus adaptées à certaines conditions environnementales.
Génétiquement, tu veux dire?
Génétiquement. On peut sortir un exemple assez très facile à voir, c'est l'espèce humaine. Dans l'espèce humaine, on a certains groupes qui ont des traits physiques différents d'autres groupes. Si on sort un exemple extrême. On prend quelqu'un qui vient du nord de l'Écosse, dont toute la famille vient du nord de l'Écosse depuis des générations, et on prend une autre personne qui vient du Congo, dont toute la famille vient du Congo depuis des générations. Et ces deux personnes, elles ont des traits physiques différents. Et ça, c'est réel dans toutes, ou peut-être dans la plupart des espèces. Certaines populations, elles ont certaines adaptations aux conditions environnementales locales. Et on suppose que ces adaptations, elles peuvent jouer un rôle pour l'espèce en tant qu'ensemble, de s'adapter dans un contexte de changement environnemental. Peut-être une population elle sera plus adaptée à la chaleur et elle aura plus de chances de survivre dans un environnement plus chaud. L'intérêt final, c'est de pouvoir prévoir de manière plus précise quelle sera la distribution future de la tique en Europe pour pouvoir jouer dans certaines régions de manière plus spécifique, plus effective.
Plus efficace contre la tique. Donc, oui, soit avec la sensibilisation, enfin, prévenir que les personnes qu'il va y avoir plus de tique par rapport à avant, ou même peut-être aménager peut-être le territoire pour aussi ralentir la progression. Oui.
Une question pour la tique aussi, moi je ne travaille pas vraiment dans le côté paysagère, mais on sait très bien que la fragmentation, elle augmente les risques de transmission. Ça augmente les contacts de l'humain avec la tique.
Oui.
Parce que si la forêt elle est plus petite, et si les forêts sont fragmentées, les petits mammifères, les souris, qui sont normalement, ont la tendance de rester dans une forêt, ils vont devoir sortir de la forêt pour chercher de la nourriture, tout ça. Et c'est quand ils sortent de la forêt qu'ils vont avoir le contact avec les humains. Alors, si on voit que dans certains groupes de tiques, dans certaines régions, ils ont plus de chances de s'étendre, on va pouvoir aménager mieux ces territoires pour peut-être réduire les risques que la tique entre en contact avec les humains.
D'accord. Et donc toi, concrètement, ton travail consiste à faire des études génétiques sur des populations de tiques.
Oui.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dans la forêt pour récupérer des tiques, c'est ça?
Moi, je travaille dans un cadre des sciences, on va dire, collaboratives.
D'accord.
En vrai, j'ai beaucoup de collaborateurs dans d'autres unités de recherche en Europe qui m'ont envoyé plusieurs échantillons de tiques. Alors j'ai des tiques de la Finlande, de la Suède, de l'Estonie, Roumanie. Bon, je ne vais pas lister tous les pays, mais bon, j'ai des tiques partout en Europe. Et en vrai, je travaille dans le cadre génétique. Je regarde par rapport à des marqueurs génétiques, on appelle des marqueurs qui peuvent me aider à regrouper ces tiques dans différentes lignées, différents groupes génétiques. Voilà. Et à partir de ces regroupements génétiques, je vais essayer de modéliser. Et là, je parle de modélisation mathématique, vraiment. D'accord. Quelle sera la réponse de ces différents groupes au réchauffement climatique?
Mais déjà, on peut peut-être s'intéresser au passé, comment elles se sont déplacées pour arriver jusque-là.
Oui, la méthode que j'utilise, elle peut aussi aider à répondre quel est l'essence des migrations de la tique. Si elle vient du sud vers le nord, ou de l'est vers l'ouest. Ce sont des méthodes qui peuvent aussi nous aider à comprendre comment la tique elle est arrivée là où elle se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas ma question principale. Ma question principale, c'est plutôt de prévoir dans le futur comment sera la distribution. mais sans doute, on peut aussi regarder les passés.
D'accord. Donc, bon, c'est des résultats qui pourraient être utilisés en combinaison avec d'autres résultats de recherche pour des décisions qui pourraient être prises.
C'est comme évolue la science. En vrai, on travaille chacun de notre côté avec de petites questions assez ponctuelles.
Oui.
Et après, on met ensemble chacun de nos résultats.
Est-ce que la tique a un prédateur ou est-ce que vous avez un moyen de l'éradiquer ? Parce qu'on a rencontré récemment un de tes collègues romains qui travaille sur la mouche Suzuki, donc il y a les moyens naturels de lutter contre la propagation de cette mouche. Pour la tique
C'est pas vraiment une possibilité de travailler dans le même cadre avec la Drosophila Suzuki. Oui, il y a des prédateurs un peu partout, mais pour la tique, pas trop, on ne peut pas vraiment jouer dans ces cadres. Ce n'est pas notre but non plus d'exterminer la tique. La tique, elle a un rôle écologique dans l'écosystème. La tique, elle aide à réguler les populations des petits mammifères et même des populations d'oiseaux. Ce n'est pas notre but, mais dans aucun cas, d'exterminer la tique. Notre but, c'est aussi un petit peu de réguler les populations des tiques. Et surtout de mieux gérer les territoires, aménager les territoires et informer la population pour réduire les risques des contaminations par la maladie de Lyme.
Merci Pedro de nous avoir expliqué un petit peu ton sujet de recherche. En parallèle de ta thèse, tu es aussi très intéressé par la diffusion de la science et de tes travaux. Donc tu as participé l'année dernière au programme Méta Recherche en Récit d'Ombelliscience. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu trouves que c'est important de parler de ta recherche et qu'est-ce que tu as tiré de ces formations ?
La diffusion scientifique, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Et je trouve très, très beau quand on arrive à parler des sujets assez spécifiques, des fois assez éloignés de la population en général. Et on peut créer l'intérêt par la science dans notre société. C'est important aussi de donner un retour à la société de qu'est-ce qu'on fait dans notre travail. On sait que les recherches fondamentales, elles sont financées par le public dans la plupart des cas. Et c'est important de donner un retour à la société. Et en vrai, la formation que j'ai suivie, je suis ombelliscient, c'était une très bonne opportunité. Je n'ai qu'à remercier parce que c'était une chance d'améliorer un petit peu les capacités de jeunes chercheurs de communiquer leur recherche et aussi une opportunité de parler à la société.
D'accord, merci beaucoup, merci d'être venu aujourd'hui,
à vous.
Justement pour partager tes recherches. Je vais laisser la parole à Nicolas pour l'actualité de la culture scientifique en région.
Bonjour à tous. Donc effectivement, on va brosser un petit peu l'actualité de la culture scientifique là, sur cette fin du mois de février, mois de mars. Je vais peut-être laisser en premier la parole à Julie, juste que je crois qu'elle avait une info à faire passer sur son laboratoire Habiter le Monde. Peut-être qu'on laissera la parole à Pedro s'il a une actualité relative à son laboratoire après. Non,
pas spécialement.
Julien en première.
Ça marche. Donc effectivement, le laboratoire Habiter le Monde a le plaisir d'accueillir Jean-François Valette, donc, qui est maître de conférence en géographie à l'Université Paris 8. Voilà, donc le lundi 4 mars à 14h. Donc je donne simplement l'intitulé, hein, je vous invite vraiment à venir. Commoning et trajectoire de communs fonciers historiques, l'exemple des Eridos et Comunidades au Mexique, tout simplement, à Mexico, donc une étude de cas. On travaille vraiment, c'est un séminaire mensuel, donc on travaille sur la notion des biens communs, voilà, pour le dire
ça
se passe simplement.
Où
au Pôle Citadelle.
D'accord, donc, c'est ouvert au grand public.
Alors c'est ouvert aux chercheurs, doctorants, post-doctorants et masterants.
D'accord.
Voilà. Voilà, et du coup, une actualité un petit peu plus personnelle. Dans la foulée, le mardi 5 mars, je donne une conférence avec Camille Dormois, donc une autre doctorante qui est en sociologie dans mon laboratoire Habiter le Monde. Et donc là, c'est organisé par le laboratoire de littérature Cercle, qui organise donc son séminaire des doctorants sur le pur et l'impur. Donc forcément, les déchets, ça nous concerne. Et on prend cette notion de pureté et d'impureté, et voilà, on met les déchets au centre de la réflexion.
Très
voilà, merci beaucoup.
On va rester sur les actualités pour les professionnels avec le 21 et 22 mars, le printemps pédagogique en sciences de la santé organisé par Cibu Santé donc à Salouel, donc avec des conférences d'experts internationaux et nationaux. Donc c'est ouvert uniquement aux professionnels sur réservation, sur inscription, avec des échanges de pratiques pédagogiques en atelier, etc. Tout un tas de démarches pour expliquer la pédagogie en santé. Et puis bien sûr les formations, les sessions de formation méta-recherche en récit, notamment sur la bande dessinée et sur le poster scientifique vulgarisé. Effectivement, il y a toujours des places disponibles pour les doctorants des Hauts-de-France intéressés par ces deux formations. Donc toutes les informations que l'on donne là, on peut les retrouver sur Ecosciences Hauts-de-France et sur les sites relatifs aux différentes structures. Pour les informations grand public, je peux vous proposer du 1er au 17 mars à Creil, donc à la faïencerie, il y a le festival FAST, c'est un festival 100% art et sciences. C'est l'occasion d'aborder de manière ludique et créative des thématiques, les relations homme-machine, santé augmentée par exemple. Et le 12 mars, en fait, dans le cadre de ce festival, à l'Institut Saint-Joseph de Mancel, à Pont-Sainte-Maxence, il y a des représentations, des lectures, lectures théâtralisées qui retracent la rencontre entre deux chercheurs et deux metteurs en scène qui ont écrit chacun une lecture théâtralisée racontant un peu leur rencontre. Donc il y en a une qui s'appelle Bobby et le garçon X et l'autre qui s'appelle Effleurer l'abysse. Voilà, donc je vous laisse découvrir aussi sur le site de la faïencerie le contenu de ces deux spectacles qui ont lieu le 12 mars. Et puis peut-être vous parler, puisqu'elle a lieu jusqu'au 1er mars, c'est sur Lille cette fois-ci, l'île Villeneuve d'Ascq, donc sur le site de la Bibliothèque des sciences humaines et sociales, donc sur le site Pont de Bois, il y a une exposition sur Darwin, donc c'est le voyage de Darwin à découvrir, donc à l'Université de Lille, et ça permet de mettre en parallèle cette exposition, la théorie de Lamarck et de Darwin, et de comprendre la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces et en quoi donc Charles Darwin a posé un regard nouveau sur la nature et sur l'homme. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au mois prochain, donc avec de nouvelles actualités sur les sciences en Hauts-de-France.
Merci Nicolas, merci encore une fois Julie et Pedro d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci à vous.
On vous dit au mois prochain pour la prochaine émission Audio Sapiens et vous pourrez retrouver assez rapidement le podcast de l'émission sur le site de Radio Campus Amiens.